Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire. Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour François Braun.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le ministre de la Santé. À 11h55, vous serez à l'hôpital Georges Pompidou pour vivre cette minute de silence qui va être vécue dans tous les hôpitaux de France. Vous serez auprès des soignants après ce drame qui est intervenu donc au CHU de Reims. L'infirmière Karen est morte. Il y avait une autre personne qui a été poignardée également ce jour-là, qui était secrétaire médicale. Je voudrais commencer par avoir une pensée pour elle et savoir comment elle va, si vous avez des nouvelles.
Bien sûr, c'est au-delà de la colère qu'on doit ressentir. Il y a une émotion certaine pour ce qui s'est passé, qui est absolument horrible, inqualifiable. Karen est décédée, sa collègue est sortie du bloc opératoire, heureusement. Et elle est maintenant en surveillance, elle va mieux, mais restons quand même toujours prudent et comme vous, je veux avoir un message pour la famille, pour les amis, pour les collègues, pour tous ceux qui sont intervenus sur ce drame.
Et c'est évidemment un drame qui traverse toute la société aujourd'hui. On partage cette question d'émotion et puis elle pose beaucoup de questions, cette situation, des questions sur la sécurité, des questions sur le jugement, des questions sur ce qui s'est passé bien sûr, et de nombreux soignants qui témoignent depuis en se disant bah, ça a été Karen, mais demain ça pourrait être nous. Est-ce qu'il y a d'abord, sur la question de la sécurité des hôpitaux, de la sécurité des soignants, dans un contexte de violence accrue, c'est ce que disent les soignants, des mesures que vous allez mettre en place?
Il y a un contexte de violence accrue envers les soignants, envers nos maires. On en parlait encore il y a quelques jours. Il y a un contexte global de violence et toute violence est inacceptable. Je crois que la première chose, c'est de bien rappeler qu'il n'y a pas de violence banale. Il n'y a pas ce que l'on appelle des incivilités. C'est violent. Montrer le poing à quelqu'un, c'est pas simplement un geste d'humeur, c'est le menacer. Injurier une infirmière, c'est une violence. Premier point, c'est dire que toutes ces violences sont inacceptables. Moi, je veux une tolérance zéro. Je veux qu'elles soient signalées, elles soient prises en compte. Nous avons mis en place déjà des mesures. Il y a une convention hôpital-police-justice qui est mise en place dans les établissements, qui permet une collaboration fluide entre tout le monde, qui permet aux soignants d'aller porter plainte rapidement. On banalise beaucoup trop, dans notre société, et de fait aussi dans le domaine sanitaire, ces violences.
Vous étiez urgentiste, d'ailleurs, vous-même, avant d'être ministre. Hein, donc c'est un univers, un quotidien que vous connaissez par cœur.
Que je connais par cœur, c'est pour ça aussi que on peut faire des plans. On a d'ailleurs un plan de sécurisation des établissements, 25 millions par an qui sont mis aux établissements pour faciliter justement cette sécurisation. Mais ce qu'il faut et ce que je veux aujourd'hui, ce sont des mesures pratiques qui se voient sur le terrain, des choses simples. Très simple.
Alors allez-y, lesquels? Parce que effectivement, on a l'impression que à chaque fois il y a des plans qui sont mis en place, il y a des conventions comme vous dites, mais le problème c'est que dans l'urgence immédiate d'un danger, ça marche pas à tous les coups. Je vais y revenir, mais d'abord vos solutions.
Il faut des choses pragmatiques. Je réunis demain les organisations syndicales, tout le monde, pour qu'on fasse vraiment le point à ce qu'on met sur la table tout de suite. J'ai confié en février à ma ministre déléguée un travail autour de ce sujet de la sécurité.
Ça a pas l'air d'avoir porté ses fruits, c'est-à-dire que vous avez l'air de lui avoir, si j'en crois mes collègues, notamment du journal L'Opinion, qui disent que vous lui avez passé un savon, que vous l'avez convoqué, mais que vous dites que ça va pas, quoi.
C'est pas le sujet, mais ces travaux
c'est
avancent.
C'est politico, qui précise ça.
Ce que je veux là, ce sont des mesures concrètes. Ce qu'attendent les soignants sur le terrain, c'est qu'on leur dise, voilà, le parking où l'infirmière va le soir à 22h, où il n'y a pas de lumière, où il n'y a plus assez de lumière, eh ben, il faut mettre de la lumière. La porte du bureau, du vestiaire, où on attend, et je l'ai vécu, où on attend 2 mois pour changer le digicode, c'est inacceptable. Je veux dire aux soignants, ces irritants, mais le terme n'est pas assez fort, toutes ces erreurs, entre guillemets, du quotidien sont inacceptables. Quand une infirmière a un téléphone qui ne fonctionne pas, vous savez, dans le service d'urgence, on a les téléphones et il y a un bouton d'alarme dessus, puisque forcément, on peut être en contact, et bien souvent ça ne marche pas. ce que ça appelle la sécurité.
Mais c'est ça, en fait.
Ça, c'est inadmissible.
Oui, sauf que c'est la réalité, effectivement, du terrain. D'abord, vous, je le disais, vous avez été dans les urgences, vous êtes vous-même médecin. Est-ce que vous avez déjà eu peur? Est-ce qu'au quotidien, vous avez été confronté, vous, personnellement, François Braun?
J'ai été confronté à de la violence au quotidien, bien sûr, bien sûr. Je ne vais pas dire qu'on est allé jusqu'à se battre dans les services d'urgence, mais on est amené des fois à maîtriser des personnes
c'est
qui
peuvent
être extrêmement violentes. Je vais paraître prétentieux en disant non, mais peur, non, parce que nous sommes en équipe. J'ai pas été confronté à des actes.
Vous étiez pas seul, vous étiez jamais seul.
Voilà. Remarquez, je vous dis ça et je réfléchis en même temps et je me dis une fois, oui, une personne qui va menacer avec une batte de baseball. Et là, c'est quand même, on est un petit peu prudent. Mais surtout.
Le problème, c'est la solitude. Et là, je vous disiez, c'est le fait d'arriver la nuit. On a eu des témoignages. On a une Caroline ce matin qui nous a appelé sur RMC, qui disait que parfois, quand elle prend ses gardes de nuit et qu'elle arrive dans le parking, en effet, qu'il n'est pas éclairé, qu'elle voit des gens qui zonent, qu'elle voit des gens qui errent dans les couloirs, qu'on rentre comme dans un moulin à l'hôpital et dans de nombreux hôpitaux de France. Elle dit qu'elle a peur quand elle arrive. Il y a cela. Il y a aussi les boutons qui ne fonctionnent pas. On a eu Julien, qui est infirmier dans un hôpital psychiatrique, qui nous a appelé ce matin d'un hôpital de Normandie. Il dit, nous, on a un système de cordelettes à l'ancienne fixé sur notre blouse. On est censé tirer sur la cordelette et on a normalement une quinzaine de personnes qui arrivent immédiatement. Il dit qu'il a été confronté à cette situation, qu'il a tiré sur la cordelette et qu'il y a deux personnes qui sont arrivées, bon an, mal an. Ça ne fonctionne pas.
Mais c'est ça qui est inadmissible. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes, mais des systèmes qui tombent un peu en désuétude, qui tombent en panne, qui ne sont pas remplacés. Ce que je veux dire aux soignants, là, maintenant, c'est n'accepter aucune violence. Arrêtez d'utiliser ce terme d'incivilité parce que quelqu'un vous a injurié. Un patient, une famille, n'importe qui injurie un soignant, c'est un acte de violence, il ne faut pas l'accepter. Je crois que c'est vraiment la première chose. Il faut porter plainte. Et je le disais,
l'institution soutiendra,
comme c'était malheureusement le cas à Reims lundi. La police et la justice sont organisées pour prendre ces plaintes rapidement. Donc il ne faut.
On verra ensuite le suivi parce qu'on va revenir quand même sur le profil de la personne en question.
Il y a beaucoup à dire
aussi sur le suivi et sur les contraintes qui sont ensuite posées.
Mais il n'y a pas de violence gratuite. Je crois que c'est
donc
vraiment
ça. Donc ça, il n'y a pas de violence gratuite. Il ne faut pas les accepter.
Tous ces irritants.
Vous nous dites que les digicodes, les lumières, etc. Ça va être réparé, mais ça va être réparé quand?
Ah, mais là, c'est pas dans
ça doit être la priorité.
C'est la semaine prochaine. Il doit y avoir un audit dans tous les établissements. Il y a des directions, il y a des ingénieurs.
Tout ce qui ne fonctionne plus, les portes qui ne s'ouvrent plus ou qui restent trop ouvertes.
Les portes magnétiques qui marchent plus, les badges et machin. Je veux que l'on vérifie tout ça tout de suite et que l'on répare.
Et les hôpitaux dans lesquels les systèmes de sécurité sont vétustes. Je parlais de la cordelette. La cordelette, visiblement, c'est un truc qui date d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, vous le disiez, normalement, c'est plutôt le téléphone qui est censé marcher, encore une fois, quand il marche.
Oui, mais quand il marche, c'est bien là le problème.
Donc tout ça va être modernisé et réparé. On en est là.
Millions
on va commencer par réparer.
25 millions d'euros par an qui sont dédiés pour l'instant à l'ensemble de cette sécurité. S'il faut plus, nous mettrons plus pour corriger tout ça. Mais en tout cas, on ne peut plus accepter des systèmes défaillants.
Ensuite, le suivi judiciaire, on va en parler dans un instant. Mais si on reste sur cette question aussi de la solitude. Julien, cet infirmier, ce matin, il disait, en 5 ans, j'ai vu ma vie au quotidien se dégrader parce que nous sommes dans un hôpital où il y a 27 lits psychiatriques, 2 chambres d'isolement. Il y avait 5 infirmiers il y a 5 ans, il n'y en a plus que 2 aujourd'hui. C'est pas que des postes ont été fermés, c'est qu'il y en a 3 qui ont démissionné, qui ont fini par être épuisés, notamment après le Covid, et qui n'ont jamais trouvé de successeur. Ils travaillent à 2 alors qu'ils devraient être 5. Et ça, j'imagine que c'est dans beaucoup, beaucoup d'hôpitaux de France.
C'est dans beaucoup d'hôpitaux de France, c'est dans beaucoup de services, c'est le drame de notre hôpital public aujourd'hui, hein. J'entends tout le temps, il faut des lits, il faut des postes. Mais nous avons les lits, nous avons les postes, mais nous n'avons pas les personnes pour être sur ces postes.
Il est payé 1700 euros, il bosse la nuit, il bosse le week-end, il est épuisé et il est injurié par les patients. Donc je comprends qu'on ne trouve pas tellement de candidats.
Hier, malgré ce drame, j'étais au salon Santé Expo, qui réunit tout le monde de la santé. J'ai eu l'occasion de présenter au monde de la santé réuni, les choses que nous allons mettre en place, que je vais mettre en place rapidement pour la reconnaissance des pénibilités du métier de soignant, sur le partage de la garde entre l'ensemble des professionnels, le public comme le privé. Nous avançons, vous savez, quand je suis arrivé, j'ai mis des jalons, j'ai dit que pour l'été, nous aurons un certain nombre de mesures sur le fonctionnement de l'hôpital, la gouvernance de l'hôpital, les carrières, eh bien, tout ça va être annoncé
avant
le mois de juin.
Mais vous postuleriez, vous, pour un poste à 1700 euros, dans un endroit où vous allez devoir faire le boulot de 5 personnes, alors que vous serez sans doute 2 ou 3 et que vous allez bosser le soir, le week-end? Et il disait parfois la veille pour le lendemain, on nous dit demain, il faut qu'au pied levé, tu viennes dans une organisation chaotique, me disait-il.
Vous savez, c'est un très très bon exemple, ce principe de les appeler, ils sont en week-end, on leur dit il faut venir demain parce qu'on n'a pas d'autre solution. Ce que je veux mettre en place, typiquement là-dessus, sont des astreintes pour les infirmières, ça n'existe pas. Ça existe pour les médecins, ça n'existe pas pour le personnel infirmier.
Ça permettrait d'anticiper ?
Ça permet d'anticiper, ça permet au cadre de santé de ne pas être obligé d'appeler 20 personnes pour en trouver une et les enquiquiner pendant le week-end.
Des astreintes payées ?
Ça permet que les astreintes soient payées, que ce soit indemnisé correctement, que quand les gens reviennent, ils aient une rémunération qui correspond à l'effort qu'ils font. C'est tout ça que nous devons mettre en place dans l'hôpital. Ces propositions vont être avant la fin du mois de juin pour une mise en application le plus vite possible.
Sur cette question du salaire également, 1700 euros pour un job d'infirmier dans un service psychiatrique avec des horaires effectivement à rallonge. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut aussi rallonger le salaire?
Et il faut surtout... Alors la question du salaire se pose. Et comme je l'ai dit dès que je suis arrivé, il n'y aura pas de tabou et tout est sur la table. Mais il faut surtout améliorer les conditions de travail. C'est ça aussi qui est essentiel. Éviter ces horaires décalés en permanence. Redonner au service la possibilité de s'organiser. Qui mieux que le service? Les personnels du service savent comment ils doivent s'organiser pour prendre en charge les patients.
Et je précise que Julien, donc, qui nous a appelé ce matin, il a tenu malgré tout à dire qu'il aimait son métier, que c'était un métier de vocation et qu'il continuait encore aujourd'hui à aimer son métier. Ça, c'est pour le personnel.
Mon travail, c'est pour qu'il continue encore demain.
Ça, c'est pour le personnel. Les bâtiments, le fait de pouvoir rentrer dans des hôpitaux comme on rentre dans un moulin, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut se poser cette question-là?
Alors, on ne rentre pas dans un moulin partout dans un hôpital. Je crois qu'il faut là aussi remettre les choses un peu mieux. Vous ne pouvez pas rentrer dans un bloc opératoire comme ça, dans un service de réanimation.
Non, mais bon, évidemment, les urgences, de fait, il faut pouvoir y rentrer. Voilà. Mais même, moi, je prends l'exemple des maternités, n'importe qui peut rentrer non seulement dans les étages, monter l'ascenseur et rentrer même dans les chambres.
Bon, l'hôpital est un lieu qui, malgré tout, un lieu qui reste ouvert. Ça ne va pas devenir une forteresse.
Comment on trouve l'équilibre?
Voilà, c'est tout cet équilibre. Il y a des secteurs qui doivent être des secteurs plus sécurisés, où on peut rentrer. Vous savez, tous les professionnels de santé ont un badge maintenant, où on peut mettre son badge pour rentrer. Quand on va dans un service, ben, il faut s'annoncer avant pour pouvoir rentrer. Il y a plein de... C'est ces solutions-là que je veux...
Mais parfois, on a l'impression que les soignants sont aux premières lignes et qu'ils doivent aussi faire ce job-là. C'est-à-dire que c'est à eux qui, suivant qu'ils se trouvent dans le bon couloir ou pas, tombent sur quelqu'un et disent « Monsieur, vous allez où ?» Tout ça paraît assez chaotique quand même.
Oui, alors ça peut paraître chaotique, mais ça l'est pas, heureusement, dans la majorité des établissements. Et effectivement, je vous rejoins, ce n'est pas le rôle de soignant de faire de l'orientation des personnes dans un hôpital.
Est-ce qu'il faut mettre en place des agents de sécurité de manière plus systématique?
Les agents de sécurité existent dans les établissements. C'est pas tant d'en mettre plus ou de les mettre partout, c'est que on puisse les appeler, ils puissent intervenir. À Reims, pour revenir sur cette situation terrible... Les agents de sécurité sont intervenus très vite. Ils ont d'ailleurs permis de signaler l'agresseur à la police, qui elle aussi est venue très vite pour l'interpeller. C'est vraiment ce système, comment fait-on le lien le plus rapide possible entre l'agression, l'incident et l'intervention de personnes supplémentaires.
François Braun, l'homme en question est rentré donc dans l'hôpital avec son couteau de 20 cm. Il a ciblé délibérément des soignants, mais ça n'était pas la première fois. Il avait déjà commis des actes d'agression, même mode opératoire, au couteau, contre des soignants. C'était en 2017, contre 4 soignants à l'époque. 5 ans plus tard, 2022, il a enfin été jugé. Mais à ce moment-là, il y a eu un non-lieu pour irresponsabilité pénale. Et depuis, il y avait encore une suspension dans ce jugement-là pour confirmer si oui ou non il était pénalement responsable. Et l'audience, justement, elle aura lieu ce vendredi. Comment est-ce possible que pendant tout ce temps-là, il soit resté dans la nature?
Je crois qu'il ne faut pas... Déjà, par rapport à cette situation... L'enquête a été diligentée très rapidement par la justice. Il faut laisser l'enquête avancer, savoir exactement ce qui s'est passé, savoir dans quel...
Quelle enquête, là, vous me parlez de Reims?
De Reims.
Oui, mais enfin, on a déjà eu l'enquête pour le...
Oui, mais là, précisément, dans quel état d'esprit était cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je peux pas vous en dire plus parce que l'enquête est en cours. Je crois que nous avons un système judiciaire qui fonctionne bien avec les problématiques.
Vous trouvez que ça fonctionne bien?
Oui, la justice l'a répondu.
Quand vous avez quelqu'un qui a déjà fait ça,
Je crois qu'on ne peut pas...
Qui n'avait aucune contrainte, ni même de contrainte psychiatrique. Hein. C'est-à-dire que il était censé être suivi, mais en ville. Et il a d'ailleurs reconnu qu'il ne prenait plus de traitement. Et personne ne s'en inquiétait. Alors, quelqu'un qui a poignardé 4 personnes, quand même.
Je vous le dirai, je ne reviendrai pas sur ce qui a amené à ce drame absolument terrible. Et je le redis, il faut laisser une enquête se conduire. Dans les... Ce qu'on appelle les hospitalisations.
Je ne peux pas me satisfaire de cette réponse, François Braun.
Je vais aller
parce
plus
que
loin.
L'enquête sur Reims, je veux bien le croire, mais il y a déjà eu une enquête. Il y a eu 6 ans d'enquête.
Et il y a eu des décisions qui ont été prises après l'avis de psychiatre par la justice. Je crois qu'il ne faut pas.
Donc c'est comme ça.
Non, je ne sais pas comme ça. Je crois qu'il ne faut pas mélanger. En tout cas, je ne souhaite pas qu'on mélange le problème de la psychiatrie et le problème de la violence. Ce sont deux choses qui sont, je suis désolé de le dire, distinctes. Et on le voit bien par la violence qu'il y a dans notre société. Est-ce que vous savez que les personnes handicapées psychiques, les malades psychiatriques, si on veut faire simple, sont responsables de 2% des actes pénalement répréhensibles. 2%, c'est beaucoup, c'est trop, mais c'est pas beaucoup non plus. On focalise systématiquement sur ces pathologies psychiatriques et ces malades psychiques sont... malheureusement, plus souvent victimes de violences qu'auteurs de violences. Alors, des événements aussi terribles, aussi dramatiques que ce qui vient de se passer à Reims mettent un éclairage cru, violent sur cette situation. Mais je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Il faut traiter ces actes
là,
de violence. Il faut traiter
chose, la François violence. Braun, c'est la situation. Même personne qui a commis les mêmes actes, les uns en 2017, les autres cette semaine. C'est pas tout mélanger que de faire un rapprochement quand même entre ce qu'il a vécu et ce qu'il a commis en 2017 et ce qu'il a commis cette fois-ci.
Ce rapprochement est tout à fait licite, mais je le redis, laissons les enquêteurs et la justice faire.
Mais le fait que il n'y ait pas eu de décision de mesure de sûreté, qu'il n'y ait pas eu de mesure d'enfermement, qu'il n'y ait pas eu d'obligation de soins, ou en tout cas pas de suivi d'une obligation de soins, ça vous paraît pas un problème ?
Je dis que ça paraît, c'est pas un problème. C'est une personne qui, si j'en crois les informations qui m'ont été fournies, était sous curatelle, donc qui était donc surveillée, qui n'était pas si libre que ça. Mais je le redis, laissons cette enquête éclairer toutes les circonstances de cette agression.
Et la question, effectivement, des moyens que l'on donne à l'hôpital psychiatrique, aux soins de la santé mentale en France. Est-ce qu'il y a un problème là-dessus ? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens ? Les psychiatres, les psychologues, tout le monde crie au fait que la santé mentale est le parent pauvre de la santé en France. Savez, est-ce que ça n'en est pas une illustration, une de plus ?
Je ne vais pas redire ce que je dis depuis que je suis arrivé sur l'état de notre système de santé. Notre système de santé a des difficultés.
Notre système de santé a des difficultés, mais la psychiatrie là-dedans encore plus.
Nous avons 15 500 psychiatres en activité, 600 établissements psychiatriques. Quand j'entends que on en manque partout, qu'il n'y en a pas, non, nous avons des structures. Alors, nous manquons de personnel. Il y a des lits qui sont fermés par manque de personnel, comme dans les autres spécialités. Nous avons aussi une concentration, mais c'est l'organisation même de la psychiatrie autour de ces établissements psychiatriques. Je crois qu'il faut que nous continuions à développer ces réseaux autour de la psychiatrie. Le quinquennat précédent a amené des solutions dans le cadre des assises de la santé mentale. J'attends là aussi, en ce qui concerne les jeunes, puisqu'on en parle beaucoup aussi, les conclusions des assises de la santé de l'enfant et de la pédiatrie. Nous avons mis en place, au précédent quinquennat, Mon Parcours Psy, qui, quoi qu'on en dise, a pris en charge 300 000 consultations.
Beaucoup d'assises, beaucoup de réflexions, peu de décisions.
Non, mais Mon Parcours Psy, c'est objectif. C'est 300 000 consultations, c'est près de 100 000 personnes qui sont prises en charge. Donc, il y a des solutions qui se mettent en place, comme dans les autres sujets de la santé. Nous avançons, nous continuons à avancer. Je veux qu'on avance encore plus vite sur ces questions de sécurité avec des éléments pratiques, des solutions pratiques concrètes
François
qui se voient
Braun,
sur le terrain.
Deux questions encore. L'une d'abord sur drogue et alcool. Évidemment, le drame de Roubaix cette semaine, mais aussi hier à Trappes, une petite fille de 6 ans qui a été tuée par une personne qui conduisait sa voiture et qui était sous l'emprise du cannabis. Est-ce que c'est pas un problème majeur de santé publique ? Comment lutter ? Comment on a pu mettre en place un plan contre l'alcool au volant ? Est-ce qu'il faut assumer, en France, malgré le fait qu'officiellement on ne se drogue pas, puisqu'officiellement c'est interdit, de mettre en place une vraie campagne contre la drogue au volant ?
Je pense qu'il faut... et je travaille sur l'ensemble de ce sujet des addictions. Pourquoi ? Parce que quand on parle de drogue, quand on parle du cannabis, de l'alcool, on parle du tabac aussi. Hein, c'est quand même un produit qui est psychoactif, c'est-à-dire qui augmente le tonus un petit peu, si vous voulez. Eh bien, paradoxalement, les jeunes fument moins de cannabis et boivent moins d'alcool. Par contre, il y a des dérives vers d'autres modes de consommation addictifs qui sont terribles. Des produits psychoactifs beaucoup plus puissants, on a parlé de l'hexahydrocannabinol, ce fameux HHC dont on parle, la cocaïne qui est
le HHC
n'est
pas
prenant.
Interdit, hein.
Ça va pas tarder.
Ah, ça va pas tarder. Vous nous annoncez ce matin qu'il va finir par être interdit. Aujourd'hui, on peut l'acheter à tous les coins de rue. Hein.
J'attends l'avis de la NSM. Comme je l'ai dit, j'ai demandé à la NSM de se dépêcher
un peu plus. Enfin, votre avis a l'air d'être fait.
Voilà, mais discuter avec les professionnels, tout le monde est d'accord, c'est un produit addictif.
D'accord.
Donc c'est un stupéfiant.
Donc le HHC sera interdit.
Il sera mis dans la liste des stupéfiants dès que possible.
Est-ce qu'il faut inscrire sur les bouteilles de vin, boire tue sur les bouteilles d'alcool? C'est une proposition que fait Julien Courbet, qui a perdu son père, qui a été renversé par un chauffeur alcoolisé.
Ces problèmes d'addiction, je crois qu'il faut les prendre je fais plus que croire, je suis persuadé qu'il faut les prendre sur trois aspects différents. La prévention, la lutte contre le trafic et les mésusages, si je peux m'exprimer ainsi, et ensuite le traitement. En ce qui concerne la prévention, c'est un élément essentiel. Vous savez, c'est pas pour rien que c'est le ministère de la Santé.
Vous êtes ministre de la Santé et de la prévention.
La prévention est essentielle. Pourquoi ? Parce qu'il faut que nos jeunes aient la capacité de dire non. C'est ça qui est important. Alors, je ne vais pas entrer dans des détails très très techniques, mais on parle de compétences psychosociales. C'est quoi ces compétences psychosociales ? C'est redonner aux jeunes la capacité de dire non. La bonne estime de soi, le fait d'interagir avec les autres, le fait de reconnaître ses émotions, tout ça doit être travaillé. Les jeunes parents, le programme
travailler,
des 1000 jours mis en place, ça avance.
Tout au long de la chaîne, on l'a vu malheureusement cette semaine, effectivement, votre charge est lourde, non seulement du côté de la santé, mais aussi de la prévention. Merci à vous, François Braun, d'avoir répondu à mes questions ce matin sur RMC BFM TV, il est 8h54.